Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. Week-end électoral en vue à Taïwan. Dans une semaine, le 14 janvier, les Taïwanais, 17 millions d'électeurs sur une population totale de 23 millions d'habitants, éliront un nouveau président ou une nouvelle présidente. Le scrutin est à un seul tour. Le même jour, ils voteront également pour le Parlement. L'île de Taïwan, l'ancienne Formose, est située à seulement 150 km des côtes chinoises. Indépendante de fait de la Chine depuis 1949, Taïwan n'a pas à ce jour de statut propre. Seuls 23 pays reconnaissent sa souveraineté, alors que Pékin la considère comme l'une de ses provinces. En toile de fond de ces élections, un fort enjeu chinois, américain également. Pour en parler, nos invités, ils sont deux par téléphone depuis Taïwan. Stéphane Korkuff, maître de conférences en politique chinoise à Sciences Po Lyon et chercheur à l'Institut d'Asie orientale en délégation au Centre d'études français sur la Chine contemporaine à l'antenne de Taipei et auteur d'un ouvrage académique en chinois qui vient de paraître à Taipei sur la nature de sa relation avec la Chine continentale depuis 400 ans. Intitulé « Voisin de la Chine, la liminalité de Taïwan ». Bonjour Stéphane Korkuff.
Bonjour.
Et en studio à Paris, Jean-François Dimé-Guillot, président de Asia Centre. Bonjour Jean-François Dimé-Guillot.
Bonjour.
Il y a donc trois candidats en lice pour cette élection présidentielle à Taïwan qui se tiendra dans une semaine. Ma Ying-jeou, président sortant. Tsai Ing-wen du Parti démocratique progressiste, c'est une femme. Elle a fait campagne sur le thème de la prise de distance d'avec Pékin. Et James Song qui est favorable à une unification avec la Chine. Qu'est-ce qu'on peut dire, Stéphane Korkuff, de la personnalité de ces trois candidats?
Alors elle est assez différente. L'un des trois, le troisième que vous avez cité, est un peu considéré comme, c'est un petit peu méchant de le dire, mais c'est ce que les gens disent ici, hein, un peu un personnage du passé, en fait, un has-been. Il a eu des fonctions très importantes dans le Kuomintang et a été plusieurs fois candidat à la présidence. Le premier que vous avez cité, Ma Ying-jeou, est le président actuel, donc c'est quelqu'un qui est considéré comme chargé de responsabilité. Et la seconde n'a jamais eu des fonctions électives, mais a eu beaucoup de fonctions sous la présidence de Li Teng-hui et sous la présidence de Chen Shui-bian dans les années récentes. Et c'est un visage assez nouveau, assez jeune, et aussi nouveau du fait qu'il s'agit d'une femme.
Jean-François Dimé-Guillot, la personnalité de Ma Ying-jeou, il a donc été élu en 2008. Et qu'est-ce qu'on peut dire de son bilan au jour d'aujourd'hui?
Déjà, ce que je dirais, c'est qu'effectivement, les personnalités ont un versant politique, que Stéphane Korkuff a très rapidement et très bien décrit. Il y a deux versants. Il y a le lissage, je dirais, que chacun de ces trois personnages a cherché à se donner dans le cadre d'une élection qui est étonnamment calme par rapport aux autres échéances qu'on a connues dans les élections présidentielles à Taïwan. Et puis, il y a un autre versant dans ces personnalités qui est un petit peu plus riche, un petit peu plus divers. Si on prend l'exemple de Ma Ying-jeou, effectivement, sa présidence et son bilan est aussi à deux versants. La plupart des électeurs traditionnels de son parti, le Kuomintang, qui a lui-même beaucoup évolué, qui est traditionnellement un parti plus proche des idées réunificatrices sans aller jusqu'à la réunification ces temps-ci, la plupart de ces électeurs sont déçus du bilan de Ma Ying-jeou, au sens où Taïwan va bien, mais en même temps, d'un point de vue économique, il y a eu un certain nombre de hoquets, la crise a frappé Taïwan. Ces temps-ci, on est en pleine crise de l'iPad, c'est-à-dire que l'iPad a très peu d'impact industriel à Taïwan, parce que Taïwan a manqué ou a fait l'impasse sur la fabrication de l'iPad. Or, le succès de l'iPad est celui qu'on connaît. Il y a un certain nombre de déceptions. En même temps, si on regarde avec un peu d'objectivité, avec des yeux d'occidentaux, ce que Ma Ying-jeou a fait, ben, il a rattrapé une situation sur laquelle Stéphane reviendra peut-être, qui était une situation proche de la crise, sinon extrêmement critique, pendant les 8 ans qui ont précédé son arrivée au pouvoir. Une situation qui, sans aller jusqu'à la provocation permanente, a été quand même une situation de crise. Ma Ying-jeou a fait dans un premier temps un rapprochement avec la Chine continentale, a vu le danger que ça représentait, s'en est éloigné un petit peu, mais si on parle de bilan, ce qui va rester, c'est son traité de libre-échange, ce qu'on appelle le FTA.
Traité de libre-échange avec la Chine, qui est un véritable bouleversement. On y reviendra dans la deuxième partie, peut-être, de cette partie d'émission, pour prolonger l'aspect politique. Vous partagez, Stéphane Korkuff, l'idée qu'évoquait l'instant Jean-François Dimé-Guillot concernant donc ce bilan du président Ma Ying-jeou, président sortant, qui se représente. En ce qui concerne le rattrapage de la situation, les relations, quand il est arrivé en pouvoir en 2008, il a mis fin à 8 années particulièrement tumultueuses de la relation de Taïwan avec la Chine.
Je suis d'accord sur le plan politique, tout à fait, moins sur le plan économique, mais en même temps, c'est le terrain de mon collègue Jean-François, qui est beaucoup plus spécialiste que moi là-dessus. Tout à fait d'accord aussi avec ce qu'a dit Monsieur Di Meglio sur l'insatisfaction de son électorat qui va probablement coûter cher. Je ne sais pas si ça lui coûtera sa réélection, mais ça lui coûtera beaucoup de voix. Sur le plan politique, c'est clair que les 8 ans, et même plus si on compte la présidence de Litanwe qui précédait l'arrivée des indépendantistes au pouvoir, a été marqué par beaucoup de tensions dans le détroit de Taïwan, mais j'emploierai pas le mot provocation, que d'ailleurs, qui a été employé avec beaucoup de précaution par Jean-François. Disons que les indépendantistes au pouvoir ont, c'est certain, un point de vue qui est différent de celui de la Chine qui veut récupérer Taïwan, non pas à tout prix, mais in fine, et peut-être d'une certaine manière, quoi qu'il en coûte. Et le seul fait de vouloir expliciter un point de vue autre est considéré et tout de suite recyclé par les médias chinois et le discours chinois officiel comme un acte de provocation et qui est souvent compris comme tel par les observateurs étrangers, notamment américains. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que quand ce discours vient de Taïwan, ça n'est pas un discours proprement provocateur, car Taïwan n'a aucun intérêt à provoquer la Chine. C'est simplement une façon de dire, en fait, nous ne sommes pas ce que vous pensez et nous ne voulons pas faire partie de la Chine et surtout pas à vos conditions. Donc ça recadre un petit peu disons les raisons pour lesquelles, effectivement, comme l'a dit Jean-François, les relations ont été assez tendues pendant la présidence de Chen Shui-bian. Sur le plan économique, je me distancierai un tout petit peu, mais pas fondamentalement, de ce qu'a dit Jean-François, au sens où, bon, en 2001, c'est-à-dire un an après l'arrivée au pouvoir de Chen Shui-bian, Taïwan a subi de plein fouet une crise économique qui avait des répercussions globales et qui a touché notamment le secteur informatique, et on sait l'importance pour Taïwan de ce secteur. Et il faut bien dire aussi que la Chine a guère aidé Taïwan à ce moment-là, et les hommes d'affaires taïwanais non plus, surtout ceux qui veulent investir en Chine. Et enfin, plusieurs mois avant l'arrivée au pouvoir de Ma Ying-jeou et plusieurs mois avant le début de la campagne, les chiffres économiques fondamentaux de l'île montraient un redémarrage flagrant de l'économie taïwanaise, attesté par les statistiques officielles, qui montraient que la crise était finie, et d'ailleurs en lien avec la crise globale. Et donc on peut dire que l'argument qui était souvent celui des bleus, de l'incompétence des verts,
les bleus, les verts, juste une précision.
Les bleus, c'est disons le Kuomintang et ceux qui sont peut-être pas pour l'unification immédiate, mais en tout cas contre l'indépendance de Taïwan, c'est sûr. Et en vis-à-vis les Verts, le Parti démocrate progressiste et ses alliés, qui sont peut-être pas tous pour l'indépendance, mais en tout cas très contre l'unification. Et on peut donc considérer que l'argument économique des Bleus, qui était « oh là là, les Verts sont incompétents et voilà dans quel marasme ils nous ont mis », est un argument en bonne partie politisé aussi. Et d'ailleurs, les difficultés économiques de Ma Ying-jeou sont évidentes aujourd'hui, elles ne sont pas dramatiques, de même qu'elles n'étaient pas du tout dramatiques sous l'époque de Chen Shui-bian, et elles sont quand même sensibles aujourd'hui, la misère augmente, le taux de non-emploi augmente également, même si on l'envirait, je crois qu'on est à 4 fois plus en France, à Taïwan on est à moins de 5%, mais tout ça a une répercussion concrète dans les débats aujourd'hui, et on en parlera si vous comptez parler des thèmes de l'élection, mais c'est clairement ce thème-là qui est le thème central aujourd'hui, la misère, la pauvreté et le non-emploi. À tort ou à raison, en tout cas, c'est vraiment ce qui préoccupe aujourd'hui les gens énormément contre Ma Ying-jeou.
Donc, économie d'un côté, étant entendu que Taïwan n'a pas été épargné par la crise d'un côté, et puis ce qui s'est passé aussi alentour, je pense aux inondations en Thaïlande qui ont affecté aussi le secteur informatique taïwanais. Donc, les questions économiques d'un côté, et puis la question de la relation avec la Chine qui est véritablement au centre de ce scrutin, Jean-François Di Meglio.
Oui, le grand débat, c'est ce qu'on appelle le débat entre le consensus de 92 et le consensus de Taïwan. Le consensus de 92, c'est ce qui avait permis un développement assez harmonieux des relations économiques entre la Chine et Taïwan, dont on pouvait imaginer qu'il déboucherait sur une forme de développement harmonieux, en termes sinon diplomatiques, en tout cas dans les relations d'une rive à l'autre. Finalement, ce consensus de 92 a malgré tout connu des chaos, entre autres à cause des 8 ans de Chen Shui-bian, et les véritables conséquences en termes de relations, ça a été l'établissement des liens directs qui sont finalement assez récents, qui n'ont pas été même immédiats après l'arrivée de Ma Ying-jeou. Et donc on est aujourd'hui dans une situation extrêmement originale, mais c'est pas le seul exemple que la région, et en tout cas que la Grande Chine, nous donne de situation originale. On sera pas dans un paradigme un pays de système, on n'est pas dans le paradigme naturellement que souhaite la Chine continentale, qui est d'intégration totale. On est dans un paradigme qui est en train de s'inventer, qui s'invente tous les jours, que les pays de cette région ont le génie d'inventer, c'est-à-dire que des deux côtés, finalement, de cette élection présidentielle, les deux candidats ont en tête quelque chose dont le centre de gravité est peut-être légèrement différent, mais qui se ressemble très fortement. On parle à la Chine, on va continuer à lui parler, on va se rapprocher d'elle. On sait bien qu'elle est incontournable, et quand on parlait de la crise économique, on y reviendra tout à l'heure, l'impact principal de la crise, ça a été l'intégration de toute la région autour de la Chine, en réalité, et donc une plus forte dépendance de chacun des pays. Taïwan en fait partie, à la Chine. Donc, on va lui parler à cette Chine. Quelles sont les modalités? C'est encore à définir, c'est chaque jour en définition, y compris sous le mandat de Ma Ying-jeou, ça a été le cas. On a changé plusieurs fois de pied, si j'ose dire. Puis quand même, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en 2012, on est dans un rapport de force qui a considérablement évolué par rapport à ce qu'il était au moment du consensus de 92, au moment même de l'arrivée au pouvoir de Chen Shui-bian, c'est-à-dire un rapport de force où la Chine est indiscutablement et militairement imbattable, je dirais. Ce que peut simplement espérer Taïwan, c'est une capacité de résistance plus ou moins longue, une capacité à se transformer en forteresse au cas où les choses tourneraient très mal, scénario qui est marginal mais qui n'est jamais exclu des réflexions taïwanaises, mais on a changé de monde par rapport à 92.
Alors j'aimerais qu'on s'arrête pour aller plus loin dans ce que vous venez de dire, Jean-François Dimeglio, sur cet accord qui a été signé entre la Chine et Taïwan, accord signé en juin 2010 et entré en vigueur le 1er janvier 2011, il y a donc tout juste un an. Il s'agit de l'Economic Cooperation Framework Agreement. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui d'aujourd'hui, Stéphane Corcuff, de cet accord? Quel bilan peut-on en faire après un an?
Alors, peut-être avant de répondre sur ce point, moi, je voudrais dire que tout ce que vient de dire Jean-François, j'y souscris point par point. C'est-à-dire, d'une part, le fait que les bleus comme les verts, en tout cas quand on est modéré dans chacun de son camp, on est sur une sorte de consensus souverainiste qui veut parler à la Chine, et c'est le cas également des indépendantistes qui ne peuvent pas faire abstraction de cette puissance émergente. Deuxième point qu'il a évoqué, l'importance de la Chine aujourd'hui par rapport à ce qu'elle fut dans cette relation bilatérale. Et troisième point, la question militaire. Alors pour ce qui est de l'ECFA, ça nous introduit à, finalement dans ce consensus évident, même s'il est toujours caché derrière les querelles politiques. Bon, dans ce consensus-là, quelle est la vraie différence? Et la vraie différence entre les deux camps, finalement, c'est la direction qu'on suit. C'est l'objectif ultime, de soit d'atteindre l'unification à terme, soit de maintenir un statu quo. On n'ose même pas espérer un changement du nom de régime, de la République de Chine, qui est le nom officiel du régime aujourd'hui, à République de Taïwan. Donc c'est ça la grande différence. Il y en a aussi plein d'autres. Par exemple, cette élection, qui est la quatrième depuis 96, 2000, 2004, 2008, donc la cinquième, pardon, c'est la première fois qu'on a une ligne de clivage gauche-droite qui n'existe pas à Taïwan en tant que telle. La grande ligne de clivage jusque-là, c'était, identité chinoise, identité taïwanaise, conscience chinoise, conscience taïwanaise. Et l'économie, finalement, c'était toujours quelque chose d'extrêmement important pour chacun. Finalement, cette fois, pour la première fois, on voit un discours beaucoup plus marqué à gauche de ce qui serait chez nous la gauche du point de vue du DPP, qui insiste sur, disons, les conséquences qu'ont eu l'ECFA, donc je reviens à votre question, en termes de ce que j'appelais tout à l'heure le non-emploi, la recrudescence du chômage, qui, pour être modérée au regard des chiffres qu'on connaît chez nous, n'en est pas moins très angoissante pour les Taïwanais. Alors le bilan, il est très difficile à évaluer parce que, tout d'abord, comme vous l'avez dit, ça fait pas un an. Et deuxièmement, le discours sur cette question est très politisé. Et évidemment, il l'est d'autant plus qu'on arrive à l'élection présidentielle. Ce qui est clair, et ça on le sent dans la difficulté actuelle de Ma Ying-jeou à défendre son projet, c'est que manifestement, soit il n'a rien apporté, soit il est encore trop tôt pour le savoir. Et c'est très difficile de savoir concrètement qu'est-ce que ça apporte en termes de part de marché à l'international et pas seulement en Chine. Mais par exemple, les voix opposés à ce qui se passe à Taïwan insistent pour dire, exemple à l'appui, que sur certains domaines, notamment agricoles mais pas seulement, les parts de marché de Taïwan en Chine n'ont pas augmenté, mais qu'en plus la Chine a profité de l'ECFA et de centres où elle apprend la technologie taïwanaise en Chine pour grignoter des parts de marché taïwanaises à l'international. Donc il y a une sorte d'angoisse extrêmement diffuse qui renvoie finalement à l'angoisse que les Taïwanais avaient en 2008 quand ils ont voté pour Ma Ying-jeou. Il a été bien élu, hein. Il a eu 54% si ma mémoire est bonne en 2008. Un geste qui a été interprété complètement à tort en Occident par certains comme un vote pour l'unification à terme ou pour des meilleures relations avec la Chine, ce qui était entièrement faux. C'était un vote pour une meilleure économie et des relations économiques plus profondes avec la Chine, mais qui n'avaient rien à voir avec leur identification propre à Taïwan ou à leur régime, la République de Chine, donc régime distinct, la République populaire de Chine, ou leur identification à Taïwan comme nation. Donc il y avait une angoisse à l'époque d'être un peu les laissés pour compte à cause de l'antipathie naturelle entre les communistes et les indépendantistes, et qui se retrouve aujourd'hui dans un bilan qui est, finalement, Ma Ying-jeou et son gouvernement ont fait beaucoup. Il y a eu 18 accords hein, entre juin 2008 et la signature de l'ECFA. Bon, ils ont ouvert la porte tout grand. Ils nous disent, à force de campagne de publicité, qu'ils ont protégé la souveraineté de la République de Chine à Taïwan. Bon, enfin, on n'est pas tout à fait sûr et on en a des exemples. Et puis finalement, ça ne nous apporte pas grand-chose en termes d'emploi. Alors, que ce soit vrai ou pas, moi, en tant que politiste, ce qui m'intéresse, c'est cette angoisse généralisée des gens qui disent, bon, finalement, qu'on soit gentil ou pas avec la Chine, on n'y gagne pas grand-chose.
Jean-François Dimiglio, un commentaire?
Oui, plusieurs choses. C'est pas que les Occidentaux qui interprétaient quand même l'élection de Ma Ying-jeou comme une poussée sino unificatrice, en tout cas un pas dans cette direction, parce que les premières années de Ma Ying-jeou ont été très très fortement vers un rapprochement qu'on lui reprochait ensuite, et qui a été quand même proactif dans les deux premières années de son mandat. Donc lui-même avait aussi interprété ce vote, et cette grande majorité qui était due aussi au fait qu'il n'y avait que deux candidats à l'époque et pas trois, comme une volonté plus unificatrice. Sur l'ECFA, moi je pense que ce qui est plus important, c'est les intentions de l'ECFA et les conséquences marginales. Les intentions, c'est que Taïwan aimerait bien que cette ECFA permette de signer des choses similaires avec d'autres pays. Et donc, dans ce sens-là, ça rehausserait effectivement le statut de Taïwan. En termes de conséquences pratiques directes, non, rien à attendre. L'intégration économique, elle est déjà là, et elle se fait tous les jours un petit peu plus à travers des investissements. L'ECFA ne peut pas tellement aider là-dessus. En revanche, si l'ECFA pouvait être un argument pour négocier d'autres traités avec des pays environnants, ce serait bien. Ça ne se passe pas, malheureusement, et c'est là qu'il y a des frustrations. L'autre conséquence marginale, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important aujourd'hui à Taïwan, ce sont les échanges de personnes. C'est-à-dire qu'à travers l'ECFA et à travers les différents accords, dont des 18 que Stéphane Corcuff a cités, il y a des accords de libre circulation, et ça c'est une véritable révolution. On voit aujourd'hui dans les rues de Taipei non seulement des groupes, comme c'était le cas jusqu'au mois de juin dernier, mais maintenant des individus. Moi-même, je me suis rendu en décembre avec une personne qui a eu un tout petit peu de mal, mais pas beaucoup, une demi-heure, individu, passeport chinois, et il est entré à Taïwan, ce qui d'ailleurs joue dans les deux sens et joue aussi en faveur d'une meilleure image de Taïwan en Chine continentale.
Alors, meilleure image, peut-être quelques mots, Jean-François Dimiglio, pour clore cette première partie d'émission.
Je crois que Taïwan, d'abord, a souffert de la totale méconnaissance, non seulement en dehors de l'Asie, parce que finalement, nous avons la chance de consacrer pas mal de temps à cette élection qui est regardée très très loin dans cette année 2012 qui est très électorale, mais il se joue des enjeux extrêmement importants. Et je crois que c'est intéressant de se pencher sur un sujet qui est méconnu. Donc déjà, meilleure image, ça veut dire meilleure connaissance. Meilleure image en Chine, ça veut dire aussi meilleure connaissance de Taïwan, parce que Taïwan a été longtemps représenté dans la propagande chinoise, même après 92, comme un endroit peu sûr à tout point de vue. Et je crois qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment dans le mélange des cultures, ne serait-ce que d'ailleurs dans les jeunes générations qui intègrent de plus en plus la culture taïwanaise.
Donc nous aurons l'occasion, merci Jean-François Dimiglio, d'approfondir dans la deuxième partie de cette émission Géopolitique, le débat, regard sur Taïwan. Nous retrouvons nos invités Stéphane Corcuff et Jean-François Dimiglio dans quelques instants. À tout de suite.